Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba.
Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens ce mardi soir, la veille de la fête de l'indépendance. Un discours au relan de bilan de la transition. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces, notamment dans le cadre du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Il a aussi indiqué qu'une vaste campagne d'audit des services publics est actuellement en cours. Le colonel Assimi Goïta rassure d'ailleurs le peuple qu'aucun privilège ne sera accordé aux personnes impliquées. Cependant, le président de la transition n'a pas abordé certains sujets comme le calendrier électoral, le délai de la transition ou encore l'affaire Wagner. Adresse à la nation du président Assimi Goïta, quelle analyse de la classe politique? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir avec nos invités Ousmane Koulibaly, deuxième vice-président du parti Yelema, Bagui Diarra, vice-président du Rassemblement pour le développement du Mali RPDM et Zoumana Diabenta du MCATT. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce débat. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, comme je vous le disais à l'instant, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens mardi soir. Nous allons écouter le résumé de cette adresse à la nation avec Imirana Kilumaïga.
Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a fait savoir que d'énormes sacrifices ont été consentis pour faire face à la dégradation sécuritaire dans le Sahel et singulièrement au Mali. Il a donc estimé la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des FAMA élargies au moyens aériens avec l'acquisition de nouveaux aéronefs. À ces équipements s'ajoutent de nombreux véhicules d'opération et autres types d'engins roulants mis à la disposition des forces armées de défense et de sécurité du pays, a annoncé le président de la transition. Dans son adresse à la nation, Assimi Goïta a aussi évoqué qu'une politique volontariste et inclusive de recrutement a été adoptée. Elle vise à renforcer davantage les effectifs afin de faire face aux défis sécuritaires complexes du moment. Autre annonce forte de ce discours du président Goïta, c'est l'ouverture prochaine d'une école de guerre dans le pays. Cette école permettra, selon lui, de doter les forces de défense et de sécurité d'un outil efficace de réflexion, de recherche et d'analyse des questions stratégiques. Cependant, le chef de l'État a rassuré le peuple de l'engagement à contribuer à la résolution durable de problématiques sécuritaires et servir de déclic pour une résilience.
Alors, monsieur Diabenta Zoumana, vous êtes du MCATT, vous êtes du regroupement du pôle politique pour le consensus. Comment avez-vous trouvé ce discours du président Assimi Goïta?
Bon, moi, je crois que Assimi, le chef de l'État, il a parlé dans la continuité. Parce que la continuité, comment? Comme nous, au M5RFP, nous avons eu à le décrire en son temps. Quand Bandao et Mokhtar Wane étaient là-bas, on avait demandé de changer la direction, la trajectoire de la transition. Maintenant, Dieu merci, du 18 août au 24 mai 2021, Dieu merci, ils sont venus, ils ont eu à procéder à un changement. C'est-à-dire que, parce qu'en réalité, les institutions compromettaient dangereusement la cohésion au sein des forces armées. C'est pourquoi l'armée a décidé une fois de plus de prendre ses responsabilités pour éviter le chaos à notre nation. Donc ce changement est survenu. Et je crois que en énumérant les différents bilans qu'ils ont eu à faire pendant les 100 jours du gouvernement Choguel, ce sont ces différentes réalisation qu'il a eu à dire. Et je trouve que c'est très, très normal et très, très correct.
Justement, vous parlez du bilan. Est-ce que ce bilan, vous le trouvez satisfaisant?
Très, très satisfaisant.
Pourquoi?
Parce que je le trouve satisfaisant. En réalité, quand tu essaies de faire une comparaison, en 100 jours de réalisation, l'acquisition, comme vous avez à le dire, l'acquisition de nouveaux aéronefs, de nombreux véhicules d'opération, ouverture prochaine d'une école de guerre, construction d'un hôpital militaire, une vaste campagne d'audit des services publics en cours dans les différentes structures de contrôle. Donc, en réalité, ils ont touché un peu à tous les secteurs. Et surtout que même avec l'avènement de l'organisation des assises nationales, en même temps, la mise en place de l'organe unique de gestion des élections, Tout ça, c'est un truc vraiment, c'est un travail fastidieux qui...
D'accord, nous allons en parler. Ousmane Koulibaly, vous êtes du parti Yelema. Vous avez certainement écouté le président de la transition le mardi soir. Comment avez-vous trouvé cette adresse à la nation? Est-ce que ça vous a rassuré?
Bon, pas du tout, M. Gadigo, parce que tout d'abord, ce qu'on peut noter, c'est que on félicite le gouvernement de Choguel Maïga d'avoir quand même eu à prononcer le programme d'action gouvernementale. Mais malheureusement, dans notre pays, on est en train de prendre une certaine habitude. C'est que lorsque nous faisons des programmations, lorsque nous amenons des choses au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque nous amenons des lois, des textes de loi ou des projets de loi au niveau du CNT, et que le CNT vote ces choses-là, ça devient une loi. Mais malheureusement, notre gouvernement, le gouvernement de Choguel Kogalam Maïga, a pris la fâcheuse habitude de violer flagramment ces lois. Qu'est-ce qui devrait se passer? Parce que quand on passe devant un CNT qui représente aujourd'hui notre Assemblée, avec un programme d'action gouvernementale, avec un chronogramme bien établi, on devrait tout faire pour respecter les délais prescrits. Mais lorsque nous prenons le pacte de Choguel Kogalam Maïga, on se rend compte que normalement, on devrait commencer les assises nationales de refondation à partir du 30 ou sinon du 31 août 2021. Mais qu'est-ce que vous constatez?
Elles n'ont toujours pas commencé.
Ça n'a pas commencé. C'est une violation flagrante des lois. Et ce que nous, au niveau du parti Élément, nous dénonçons aussi, c'est d'abord une certaine violation de notre charte.
Ok, peut-être qu'on va aborder cet aspect, mais moi je voulais juste que vous nous dites si toutefois vous avez été rassuré par ce discours de...
Non, on n'a pas du tout été rassuré par le discours de Assimi Goïta, parce que non seulement il n'a pas parlé de...
Qu'est-ce qui vous inquiète?
Voilà, ce qui nous inquiète, c'est d'abord le respect de la charte de notre République qu'on a signée tous. La charte référant notamment au respect du délai des élections. Donc on voit qu'il n'en a même pas parlé. Et il n'a pas parlé aussi des concertations qu'on a eues avant le coup d'État du 24 mai 2021 avec notamment ce qu'on avait déjà établi avec le passé gouvernement. On sait qu'il y avait une certaine concertation au niveau du ministre de l'administration territoriale. On avait quand même fait une certaine avancée sur la loi électorale. On avait fait une avancée sur la charte des partis. Mais on voit qu'il n'en a pas fait cas, tout simplement parce qu'on est en train d'aller vers une assise nationale de refondation qui ne dit pas son nom. Cette assise nationale de refondation, nous, au niveau des éléments, seulement, pas seulement, mais au niveau d'un certain regroupement de partis politiques, on s'est dit que ce n'est plus la peine. Ce n'est pas la peine parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'assises nationales, il y a eu beaucoup de concertations, il y a eu des ateliers, des cadres de concertation avec les ministres de l'administration territoriale qui ont fait une certaine avancée. Donc on s'est dit que ce n'est plus la peine d'aller réellement vers ces assises nationales de refondation qui vont nous bouffer 2,5 milliards de nos francs.
Alors qu'on est vraiment dans... Nous allons voir que dans le discours du président, il insiste beaucoup sur cette refondation. Mais avant, M. Diarab Bagui du RPDM, comment vous avez trouvé cette adresse à la nation du président Assimi Goïta?
C'est une adresse, disons donc, une adresse bilan, mais bilan à minima en cela que les actions saillantes qui aujourd'hui doit pouvoir répondre aux préoccupations majeures donc de la population, notamment ce qui est de la sécurité et de la défense, notamment ce qui est de la lutte contre la corruption, notamment ce qui est les élections, et aussi bien les réformes. Nous voyons là qu'à minima, c'est comme des actions qui viennent de démarrer. Et donc, cet aspect semble être encourageant parce que quand vous regardez ces quatre grands axes-là et sur lesquels déjà repose son PAG ou le PAG du gouvernement, vous allez vous rendre compte que dans les discours, c'est des ébauches d'actions qui sont là, mais qui donne quand même un contenant nous permettant d'aller au renforcement donc des 10 actions. De ce point de vue-là, moi je peux dire que c'est un discours en cela encourageant. Mais faudrait-il que nous allions au-delà du discours ? Et donc cela va dire qu'il faut aller dans une consolidation donc, de ces deux buts d'action qui sont là, mais de manière à construire encore une fois l'inclusivité. Et l'inclusivité, au-delà des mots, il faut aller dans le processus pour que de manière très active, on puisse voir qu'il y a des actions effectives qui concourent à cette inclusivité, qui permettra et donc à différentes forces politiques et aux différentes couches sociaux, si vous voulez, aux différentes couches sociales, de pouvoir effectivement être dans ce processus-là.
Alors quand vous parlez d'inclusivité, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a des partis, des formations politiques qui ne sont pas, qui sont exclus du processus, de cette transition ?
Pas peut-être qu'ils sont exclus dans les mots, mais peut-être qu'ils ne sont pas, qu'ils ne bénéficient pas d'un dialogue direct avec le gouvernement. C'est aussi valable pour d'autres partis politiques qui ne se sont pas retrouvés ensemble. Ce dialogue direct-là, et moi je pense qu'il doit être très intense à la suite d'un tel discours, pour permettre à ceux que nous puissions effectivement nous retrouver, si vous voulez, dans une certaine entente, en tout cas pour la majorité du peuple, et pouvoir avancer sur des actions. Vous avez, j'en aurais terminé, vous avez aussi constaté que dans son discours, il met un point essentiel sur les assises. Mais là-dessus, là où il termine en disant, comme s'il voulait catégoriser des Maliens par rapport donc aux participations à ces assises-là, je pense simplement que ce sont des temps comme ça qu'il faut essayer d'atténuer et revoir pour davantage consolider l'inclusivité. Donc, pour me résumer, je reviens là-dessus pour dire que dans son discours, je vois que c'est un discours bilan à minima qui est donc à encourager. L'autre aspect là-dessus, c'est que la transparence, qui est le cœur même de tout processus d'inclusivité, cette transparence-là, encore une fois, je la trouve faible et on peut l'avoir avec un dialogue franc et direct avec les partis, même celles qui ne sont pas d'accord, qui soient ensemble dans un groupe et qui ne sont pas ensemble dans un groupe. Il est extrêmement important à l'ère où nous sommes de conjuguer, à discuter directement avec ces gens et vraiment d'intégrer ce qui peut être fait pour que le bateau Mali, nous puissions nous retrouver autour de l'essentiel. Et c'est quand nous nous retrouvons autour de l'essentiel pour la majorité des Maliens qu'à partir de là, le monde extérieur peut nous écouter et à partir de là, le monde extérieur, son aide peut effectivement nous servir à quelque chose. Alors, Je pense que dans la suite, on aura l'occasion de...
Oui, nous allons parler des sujets qu'il a aborder d'abord le renforcement des capacités des forces armées de défense et de sécurité, mais également la refondation et aussi la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, est-ce que les actions qui sont posées sur les actes posés sur le terrain aujourd'hui sont encourageants, Monsieur Diabenta?
Oui, c'est tout à fait encourageant. Comme l'a si bien dit mon frère Diarra. Monsieur Diarra, en réalité, vous savez que tout le monde sait réellement que dans ce pays, nous tous nous voyons que en 100 jours de travaux, que la transition, le bilan qu'ils ont eu à faire sur la refondation. Uniquement sur la refondation.
Concrètement, qu'est-ce qui a été fait sur la refondation,
par exemple ? La refondation, parce qu'en réalité, dans ce pays-là, c'est grâce au manque de vision politique et au non-respect des textes qui nous amène à aller vers cette refondation. D'où les assises sur l'adoption des terres doivent commencer demain, tout près, les 24, 25 et 26. Maintenant, quand on quitte les quatre axes qui viennent de parler, qui est dans le DPG du PM, s'agissant du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national.
Sur ce plan, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ?
Voilà, justement.
C'est un des axes prioritaires.
Je crois que le chef de l'État l'a si bien dit. Il dit que sur ce plan, ils ont eu affaire, il y a eu l'acquisition des nouveaux matériels, des nouveaux aéronefs qu'ils ont mis à la disposition de l'armée, de nos forces de sécurité. Et en même temps, il y a eu l'acquisition de
d'engins roulants.
Il y a eu une ouverture d'une école de guerre très prochaine dans notre pays et la construction d'un hôpital militaire, une vaste campagne. Ça, tout le monde sait que l'armée a besoin de matériel. Et aujourd'hui, il va y avoir un recrutement au niveau, c'est-à-dire s'agissant du, c'est-à-dire du personnel.
Oui.
Voilà. Maintenant, ils vont recruter jusqu'à, je ne sais pas, nous avons au niveau de MK, de Espoir Malikoura, nous avons eu à faire un petit travail. Parce que nous voulons qu'on commence le recrutement depuis les communes, dans chaque commune du Mali, qu'on recrute à peu près 75 jeunes. Ces 75 jeunes doivent, c'est-à-dire que vont venir, c'est-à-dire de là, c'est comme l'ancien où on faisait le recrutement d'antan. Quoi.
D'accord. Donc, si je vous comprends bien, tout ceci sont des prévisions. Ce n'est pas des actions qui sont concrètement
c'est
menées.
C'est des actions. J'étais dit les actions, le bilan, l'acquisition de nouveaux aéronefs, de nombreux véhicules d'opération de type d'engin roulant, l'ouverture prochaine d'une école de guerre, tout ça. Déjà, le financement est acquis. Donc, avec la construction d'un hôpital de guerre, d'un hôpital, une chose à trois militaires. Donc, en réalité, tout ça, ça rentre directement dans le bilan de la transition du gouvernement de Choguel, de son gouvernement de 100 jours.
D'accord, ok. Voilà. Monsieur Koulibaly, quand il parle du renforcement des capacités des forces armées maliennes, est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, cela se traduit? Est-ce qu'on voit des résultats palpables?
Le résultat palpable, ça va dépendre de tout ce qu'on va avoir comme manque d'attaque. Parce que ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on entreprend, parce que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a parlé de 1 200 milliards. Aujourd'hui, ce que le président de la transition est en train de dire, il faut le saluer. Parce qu'il parle d'acquisition d'aéronefs, d'engins roulants et autre chose. C'est vraiment intéressant. Donc, il faut les féliciter par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire comme effort pour que notre FAMA puisse avoir quand même des équipements nécessaires pour pouvoir combattre le terrorisme. Mais, en réalité, dans notre pays, le problème, c'est que on se situe souvent à une certaine position où on ne sait pas quelle est la différence entre ce que le gouvernement est en train de dire et qu'est-ce que c'est que la réalité sur le terrain. Parce que si on prend le cas du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, il a avancé quand même des chiffres pharaoniques avec 1 200 milliards qu'on a avancé, qu'on a donné à notre armée pour pouvoir sécuriser nos territoires. Mais malheureusement, il y a eu des attaques. Et ce que le président de la transition est en train de dire aujourd'hui, ce que nous attendons exactement de cela, c'est que ça puisse aboutir à des résultats concrets, à une sécurisation et à sécuriser surtout nos forces armées de sécurité pour que lorsqu'ils se déplacent, pour qu'il y ait moins d'attaques et que ces choses-là puissent avoir vraiment un résultat notable, un résultat palpable. Mais tant qu'il n'y a pas de résultat palpable, c'est difficile quand même de distribuer des notes. Mais ce sont des intentions. La création de l'école de guerre et autre chose, bon, ça va venir renforcer un peu tout ce qu'on a déjà comme EMEA, parce qu'on sait qu'il y a l'EMEA au Mali, il y a beaucoup de cadres qui viennent se former, en tout cas au niveau de l'Afrique, du Cameroun, puis de l'Afrique centrale, puis de l'Afrique occidentale. Donc, tout ce qu'on va faire par rapport au renforcement des capacités de nos forces armées, c'est vraiment une bonne chose, et le parti élément, on les salue. Mais ce qui se passe réellement sur nos terrains, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si vous partez à Nyounou, avant, on pouvait circuler de façon libre pour aller en 4e région. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quitter ici pour aller à Nyounou? Est-ce que vous pouvez quitter ici tranquillement pour aller à Farabougou? Donc ça, ce sont des choses qui sont réelles. Et le peuple suit le gouvernement. Le peuple suit la transition à travers ces actes-là. Il faudrait qu'il y ait des résultats concrets, des résultats palpables, au-delà des discours qu'on est en train de tenir pour qu'on puisse donner, qu'on puisse attribuer une certaine note à la transition.
Alors, Bagui Diarra, le président a avancé, a fait beaucoup d'annonces sur le plan du renforcement des capacités des forces armées de défense et de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces annonces-là sont en train de, pourraient porter fruit dans les mois, dans les semaines à venir? Est-ce que c'est suffisant?
Il est évident que le renforcement de la capacité opérationnelle des forces armées et de défense en lui seul ne sera pas suffisant pour en fait la stabilité que nous sommes en train de rechercher. Mais ce renforcement est quand même extrêmement important parce que on est d'accord que pour avoir de la sécurité, il faut véritablement y intégrer l'aspect de développement. Et c'est pour cela, pour avoir cet aspect de développement, vous ne pouvez pas l'avoir sans que les populations elles-mêmes, au niveau local, elles n'en soient fortement impliquées. Et donc, vous comprenez là qu'une chose est de renforcer la capacité opérationnelle des forces armées et de défense, mais une autre chose est de faire en sorte que les populations, au niveau local, puissent effectivement accompagner ce processus et être actives dedans, afin que, pour tout ce qui est lié à une question économique, parce que finalement, vous voyez que l'insécurité au niveau de nos populations locales, la crise économique a aussi une grande part dedans. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'il faut conjuguer pour pouvoir avancer. Mais le plus important, c'est d'arriver à des résultats. Vous comprenez que ces annonces sur le renforcement des capacités qui sont faites là sont certes encourageantes, mais de l'autre côté, quand vous regardez sur le terrain, peut-être que l'impact, on ne le voit pas tout de suite. Mais on va se dire que l'impact aussi n'est pas aussi immédiat. Il faut y travailler pour y arriver, et d'où l'aspect de développement et socio-économique que j'ai tout à l'heure avancé. Mais l'autre aspect que je voulais dire, c'est vrai qu'on est dans un processus où on dit discours encourageant, on dit il y a des actions qui sont là, mais il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'intentions. Tout ce qui a été dit là par rapport à l'école de guerre, par rapport aussi à l'hôpital et tout ce qui s'ensuit, c'est des intentions. Et on est d'accord que les intentions, il faut les avoir. On est d'accord qu'il faut aussi aller dans un esprit où il faut faire avancer les choses. On est d'accord avec tout ça. Mais le Mali, on est dans une situation où il faut tout de suite lier l'acte à la parole, parce qu'il urge d'impacter et impacter de manière positive face à la profondeur de la crise multidimensionnelle que nous avons là.
Alors nous avons vu sur cette question de l'insécurité, il y a un sujet qui fait polémique depuis quelques jours. Le président n'en a pas évoqué dans son discours. C'est une éventuelle arrivée de forces russes, d'une société privée russe, pour aider le Mali à sécuriser, à combattre cette insécurité. Est-ce que vous comprenez le silence du chef de l'État sur cette question, Monsieur Diarra?
Comprendre le silence du chef de l'État, je ne saurais le juger, mais je pourrais quand même faire mon analyse de la situation, et une analyse qui reste quelque peu réservée en cela que les autorités, vous l'avez dit, il y a ce silence-là parce que de manière officielle, on n'a pas entendu les autorités maliennes en parler, mais nous voyons que c'est autour de nos partenaires et au-delà du monde qu'on en parle. Mais je pense dans son discours, il a parlé d'un point qui peut-être implicitement est en train de vouloir aller vers là où il appelle effectivement nos partenaires à être aussi davantage à l'écoute pour mieux comprendre la situation. Là où il lui-même exprime un peu l'inefficacité, en tout cas jusqu'à date, si vous voulez, des efforts de part et d'autre de l'ensemble des partenaires ou des amis du Mali qui sont là, et que le souci, c'est d'aller vers une efficacité, pour reprendre effectivement un peu son idée, même si ce ne sont pas clairement les mots que je lui prête là, mais l'idée, c'est de dire il nous faut aller à une coopération plus efficace. On peut sentir ça un peu dans ses propos.
Parce que est-ce que vous pensez aujourd'hui que la coopération qui existe entre le Mali et ses partenaires actuels a montré ses limites?
Je ne dirais pas montrer ses limites, mais disons que clairement la situation est sécuritaire au Mali depuis 2012. Disons qu'on n'a pas de résultats probants. C'est une situation qui se détériore du jour le jour. Et donc, l'ensemble de ces partenaires qui sont là et le gouvernement, moi, je ne dis pas le gouvernement est fautif ou les partenaires sont fautifs. Il s'agit d'appeler ces parties-là à plus d'efficacité dans leur approche opérationnelle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit.
D'accord.
Et nous voyons que pour l'instant, pendant ces 8 années ou ces 9 années-là, on est là, il n'y a pas de résultats probants sous la main. Et en même temps, voici une crise qui change également de format et de profondeur. Parce
D'accord.
que plus nous laissons le temps écouler, évoluer, ça va changer de forme au niveau local et plus difficile effectivement de
coercer. Nous allons vous redonner la parole tout de suite, monsieur Diabenta. Oui. Cette polémique autour d'une éventuelle présence de mercenaires entre guillemets russes, est-ce que vous êtes au courant au niveau du MCATT et du M5-RFP, et comment vous l'appréciez?
Bon, notre analyse de la situation, comme c'est eux qui disent mercenaires, mais nous on ne trouve pas que c'est le mot mercenaire là. Je trouve que c'est trop dit.
Oui, une société privée.
Voilà. Moi, je crois que si réellement Wagner serait la solution à ce que notre territoire puisse trouver la stabilité, mais on est partant. On est partant. Moi, je ne vois pas de problème à cela. Parce qu'en réalité, nos partenaires qui sont sur le terrain, ici, que ce soit la force Barkhane, que ce soit la force Takuba, que ce soit la MINUSMA, ils ont montré leurs limites. Vraiment, moi, je trouve que à notre regroupement, trop, c'est trop. Vraiment, trop, c'est trop. Trop de sang malien à verser maintenant. Vraiment, il est temps que l'on essaie de chercher une solution à cela. Il faut que ça s'arrête. Si Wagner est la solution, mais on est prêt à aller avec une chose à Wagner pour que nous puissions recouvrir notre dignité, pour que nous puissions pacifier notre pays, l'actualité de notre pays. Vraiment, moi, nous sommes partants.
D'accord. Monsieur Koulibaly Ousmane du parti Élément, c'est vrai que c'est un sujet, les autorités maliennes ont dit qu'il ne s'agit que des rumeurs. Et donc, le Mali n'a eu aucun contrat avec aucune société russe. Mais en tout cas, ils n'ont pas démenti le fait qu'il y aurait eu des discussions avec une telle société. Vous, non, au niveau du parti Élément, est-ce que vous pensez que un tel partenariat pourrait porter des résultats?
Bon, ce qu'il faut déjà déplorer, c'est que, nous, on pensait que le président de la transition, à l'occasion de cette adresse à la nation,
allait
donner des éclaircissements, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé le peuple dans une certaine. Un état d'ombre, donc, qu'il faudrait éclaircir. Ça, c'est regrettable. Mais nous pensons que, en matière de sécurité, il faudrait surtout se baser sur ses propres forces. Il ne faut pas espérer sur, c'est-à-dire que des forces étrangères, que ce soit Barkhane, Takuba, que ça vienne de la Russie, de l'Israël, ou bien de l'Angola, parce que tous ces pays ont leurs intérêts. Ils défendent leurs intérêts et le Mali, normalement, aussi doit défendre ses intérêts. Et nous devons, en tout état de cause, parce qu'on est à la veille quand même du 22 septembre, qui est une fête célébrant notre souveraineté nationale. Ça veut dire qu'on a une armée nationale, une armée souveraine qui arrive à nous couvrir, qui arrive à assurer notre sécurité. Voilà pourquoi on est content. Sinon, il n'y a pas de raison à célébrer le 22 septembre. Mais quand on le célèbre, on ne peut pas le faire avec un certain enthousiasme à faire venir des forces étrangères. Ça, c'est vraiment étrange pour moi. Moi, je pense qu'on doit surtout nous apesantir sur notre FAMA, nos forces armées de sécurité, leur donner les moyens nécessaires. Et ce que Assimi a dit dans son discours, ça va dans ce sens. Pourquoi aller chercher d'autres forces? Je ne dirais pas de mercenaires, mais en tout état de cause, lorsque nous devrons quand même établir des relations de sécurité, ainsi de suite, des partenariats, il serait mieux que ce soit d'état en état. Ça donne une certaine sécurité, ça donne une certaine garantie. Mais s'il s'agit de trucs privés, moi j'ai quelques réserves par rapport à cela. Notre parti ne s'est pas du tout prononcé par rapport à ça, mais c'est une position personnelle. Ce que moi j'aimerais, c'est que si on veut aller avec la Russie, le Mali a déjà travaillé avec la Russie.
Et ça se passe entre États.
Entre États, oui, on peut passer par l'ONU, on peut passer par autre chose, mais si c'est bilatéral ou multilatéral, ce sont les choses qui passent. Mais si on doit faire venir des mercenaires dans notre pays, cela vraiment porte préjudice à notre propre souveraineté.
D'accord.
Et cela est préjudiciable.
Ça, c'est la position personnelle de Ousmane Koulibaly. Oui. Monsieur Diarra Baghi, le président de la transition a évoqué la lutte contre la corruption. Il a même indiqué qu'une vaste campagne d'audit des services publics est en cours. Alors, sur le terrain, déjà, qu'est-ce que nous voyons qui puisse nous rendre optimistes que cette lutte-là va aboutir?
Qu'est-ce que nous voyons sur le plan de la lutte contre la corruption? Les actions que tout le monde a vu ça et là. Et donc,
quelle action?
Ça dit qu'on veut dire la mise, comment est-ce qu'on appelle ça, sous mandat de dépôt, que ce soit de l'ex-premier ministre ou de l'ancien premier ministre, M. Soumelou Bouyemaïga, ou que ce soit donc Mme la ministre, et même d'autres opérateurs économiques qu'on a entendus ça et là. Et tout cela, tout cela sont des débuts, parce que ce que je comprends, je ne suis pas juriste, mais ce que je comprends des juristes, c'est que ça, c'est juste un début d'un processus. Et donc, j'ai aussi entendu peut-être l'autre action qui est au niveau du CNT, où ils ont pu faire passer ou adopter là-bas, en fait, ce qu'ils appellent le pôle financier national, et donc qui, au-delà peut-être des procédures pénales, va s'atteler également à recouvrer, si vous voulez, donc les dus perdus. Et donc, ces différents éléments-là, pour l'instant, j'ai dit que c'est toujours des débuts encourageants, mais dire avec certitude que là, on a vraiment les éléments qui disent qu'on est véritablement engagé donc, dans la lutte contre la corruption. Et peut-être qu'il faut d'autres acquis à venir, mais encore une fois, et ça aussi, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas au moins des actions comme ça. Et lorsqu'elles sont là, il faut les encourager et travailler à toujours à ce qu'il y ait une saine et une bonne distribution de la justice. Nous, au sein de notre parti, par rapport à cette question-là, de la lutte contre la corruption, c'est ce que nous disons. Nous l'encourageons, mais nous voudrons que ça soit effectivement une saine et bonne distribution donc de la justice à tous les niveaux, qu'il faut éviter. Et là c'est, je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui l'ont dit, il faut éviter tout ce qui est action de populisme ou toute autre action qui peuvent être interprétées comme étant
une
chasse aux sorcières et tout ça. Donc, mais en tout cas, laisser la justice travailler dans toute sa rigueur et dans toute sa sérénité, parce que cela est extrêmement déterminant, en tout cas dans la suite de la transition.
Monsieur Diabenta, dans le cadre de la lutte contre la corruption, est-ce que aujourd'hui nous voyons déjà des actions qui nous permettent d'être optimistes?
Oui, bien sûr, il y a des actions qui nous permettent d'être optimistes, comme l'a si bien dit M. Diarra, parce qu'en réalité, ça a lieu quatrième axe pilier du DPG du PM. Et au M5 RFP, c'est ce que nous avons tant crié sous Ibeka, la malversation financière, la gabegie, cette gabegie financière. Les 7 ans que Ibeka a eu faire, vraiment, tous ces responsables-là, nous voyons. C'est pour cela qu'on dit réellement de fermer les frontières, parce qu'ils seront tous arrêtés un à un.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une justice des vainqueurs aujourd'hui, comme le disent certains?
Il n'y a pas une justice des vainqueurs. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont. C'est-à-dire que tout le monde sait, ils le savent. Tous ces responsables-là, ils savent.
Jusqu'ici, ils sont des présumés innocents.
Oui, on sait que c'est des présumés innocents, mais tout le monde sait. Personne, quand tu prends tout de suite là, le truc, la prédation des baux de l'État, c'est-à-dire que ça, c'est un. Le second point, la loi de programmation militaire, comme l'a si bien dit l'autre, là, 1000 et quelques milliards. Mais en réalité, ces responsables-là, c'est pour cela qu'ils sont en train de crier « Allons-y aux élections, allons-y aux élections ». Parce qu'ils savent que chacun a son tour sur le coiffeur, ça va venir.
D'accord.
Nous, on n'est pas pressés.
D'accord.
Ils vont tous répondre devant la loi,
d'accord,
un à un.
D'accord. Rapidement, M. Koulibaly, est-ce que cette lutte contre la corruption pour laquelle s'engagent les autorités, est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu qu'il y ait une justice à double vitesse?
D'abord, ça ne doit pas servir de prétexte pour pouvoir prolonger la transition. Parce que, écoutez, M. Diabenta, j'ai comme l'impression, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait aborder et que prendre son temps pour pouvoir. Moi, je dis, la justice, elle est indépendante. La justice ne dépend pas de la transition ou bien d'un gouvernement qui est légitimement élu ou autre chose. La nôtre, on a opté pour ça depuis le 25 février 1992. Notre constitution confère à notre justice une certaine indépendance. Donc, il faut laisser la justice travailler. Il faut enlever de tout ça vraiment un certain état d'âme, un certain état de populisme qu'on est en train de faire régner aujourd'hui.
Vous êtes sûr que même sans, après cette transition-là, la justice pourrait...
Non, la justice pourrait travailler. Parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas que c'est parce que c'est Choguel qui est là. On sait qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont membres de cette transition. Pourquoi M. Diabintan n'en a pas parlé? Moi, je suis surpris. Parce que on parle, il y a une certaine justice sélective. On a arrêté certaines personnes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui sont aux affaires aujourd'hui et qui avaient aussi des dossiers au niveau du pôle économique. Pourquoi on ne les appelle pas? Pourquoi on n'appelle pas ces personnes-là aujourd'hui? Ben, on prend un certain, comment dirais-je, courage à appeler d'autres personnes aujourd'hui qui ont pris un certain courage à dénoncer quand même une certaine prolongation. Donc, ce que nous pensons, c'est que ça peut être une certaine justice sélective, c'est qu'il faut éviter dans notre pays.
D'accord,
voilà.
D'accord, mais parlant d'une dernière chose, c'est-à-dire les élections sur lesquelles le président de la transition ne s'est pas prononcé également lors de son discours de mardi soir. Qu'est-ce que ça vous dit, le fait que le président passe sous silence ces élections? En tout cas, il n'a pas donné de chronogramme, il n'a pas dit si les élections seront tenues aux dates initiales. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous préoccupe un peu?
Oui, ça nous préoccupe beaucoup parce que nous, on pense que dans notre pays, on a pris une certaine habitude. Lorsqu'un gouvernement vient, il a l'habitude de prendre tout ce que l'autre avait fait et le mettre dans les placards. Et malheureusement, pour les cas du Mali, et aujourd'hui, c'est le même ministre de l'administration territoriale qui avait travaillé avec tous les partis politiques. Et on était tombé d'accord sur certaines choses, à savoir la révision de la loi électorale, la révision de la charte des partis. On était avancé, on était à un certain niveau et on pouvait aller à une élection libre et crédible. Mais malheureusement, lorsqu'il y a eu le coup d'État du 24 mai 2021, on est revenu sur certaines choses. Et ces choses-là ne sont pas en train de bouger, malheureusement. Le Premier ministre qui est en place fait du surplace. Il ne bouge pas du tout sur ces choses-là. Donc, on est en train de nous faire miroiter les assises nationales de refondation comme si c'était quelque chose qui allait vraiment donner un autre visage au Mali. Alors qu'on sait qu'on a eu beaucoup d'assises, on a eu beaucoup de rencontres, on a eu le dialogue national inclusif, il y a eu beaucoup de cadres de concertation et ces cadres de concertation existent aujourd'hui. Il y a des cadres d'ateliers qu'on est en train de mener avec le ministre de l'administration territoriale aujourd'hui qui peut nous faire avancer. Mais malheureusement, on ne veut pas tenir compte de ces choses-là parce qu'on veut nous amener à une assise nationale de refondation qui ne dit pas son nom, en réalité, qui va permettre d'avaliser une certaine prolongation de la transition.
D'accord.
Et c'est ça le problème.
D'accord. Monsieur Diarra Baghi, vous avez été un peu inquiet dû au fait que le président ne s'est pas prononcé sur les élections, pas de chronogramme ni d'indication des dates. En tout cas, dans son discours, il n'en a pas parlé.
Oui, non, en termes de chronogramme, le discours est resté totalement muet, même si le discours a parlé de l'organe unique de gestion des élections, même si il a aussi parlé donc
de la révision
des listes électorales quelque part. Je pense que ce sont les deux éléments. Mais sinon, globalement, il dit dans les discours, il nous renvoie encore donc aux assises nationales. C'est-à-dire que même si vous voyez, le mot refondation, il reste toujours générique par rapport donc même à ces assises-là. Mais quand on écoute, on a comme l'impression que c'est au cours des assises ou à l'issue des assises qu'on saura exactement sur quoi va porter la refondation donc du Mali. Mais la question qui se pose alors, et c'est encore cet aspect de la transparence, j'ai dit, qui est extrêmement important si on veut faire de l'inclusivité. Vous savez, vous gardez tout ça, vous gardez le calendrier pour vous, vous gardez tout et vous dites ça va aller se faire aux assises. Et heureusement que dès demain, ils disent qu'il y a, il va y avoir trois jours de discussion donc autour du projet de texte des termes de référence. Et il faut travailler à ce que les intentions exprimées, et même pas souvent de manière claire par les autorités, puissent être clarifiées dans ces documents-là. Et que ce dialogue franc, comme je l'ai dit, avec d'autres qui aujourd'hui ont des réserves, ou même qui d'autres n'ont pas été écoutés, et donc créer ces conditions-là pour que finalement, parce qu'on est en train de tout ramener à ces assises-là, et si la question qu'il faut se poser, si on ramène tout aux assises pour le gouvernement, et que finalement ces assises-là ne font pas l'inclusivité. Mais ça, on va où ?
Donc vous, votre problème, ce n'est pas le fait de tenir des assises, mais il faut que ce soit des assises inclusives.
Exactement, parce que si ce n'est pas le cas, d'autant plus que toutes les urgences, et même ils disent refondation, et que la refondation, au-delà de son terme générique, j'ai dit, va être clairement définie, les points seront là-bas. Parce que vous voyez, on a dit les quatre axes pour le péager, mais vous avez vu, il y a une série d'actions dans ce péager-là. Donc durant la durée de la transition, encore une fois, une transition SV courte, on est certain qu'on ne pourra pas faire tout ça, cela est clair. Mais qu'est-ce qu'on va faire, selon eux, quand on les écoute, c'est au niveau des assises que cela va être déterminé. Mais il faut le déterminer alors avec les maliens.
D'accord. Alors, vous n'êtes pas inquiet qu'en faisant tenir ces assises et qu'avant les élections, qu'on ne parvienne pas à tenir les élections en date et qu'on soit obligé de proroger la transition. Cela ne vous préoccupe pas?
Non, en fait, ça nous préoccupe parce que, vous savez, nous, par exemple, au niveau de notre parti, on a toujours dit qu'il faut rester dans les délais. Hein? On a dit qu'il faut que cette transition...
Pensez-vous qu'on pourrait tenir ces assises et rester dans le délai ?
Oui. Oui, pourquoi ? Si on se retrouve dans les assises et que...
On dit que c'est 9 à 10 semaines. Ça prendra 9 à 10 semaines.
Voilà. Et que nous nous disons finalement, il nous faut peut-être une ou deux actions. Ça dépendra desquelles. On ne sait pas sur lesquelles des actions on va s'entendre à faire pour s'arrêter, par exemple, à la date de la transition. Mais si encore les assises étaient inclusives et qu'on se retrouve là, on disait, ben tiens, il nous faut aller au-delà de ça parce que le pays ne peut pas s'en sortir si on n'y va pas de l'aide ça. Mais vous ne pouvez pas vous prononcer sur ça tant que vous ne pouvez pas faire une évaluation. Aujourd'hui, quelle est l'action qu'on va pouvoir évaluer? Et eux-mêmes, ils le disent, le PM l'a dit, c'est après les assises qu'il va y avoir un calendrier et que ce calendrier des actions sera défini. C'est au terme donc de la transition que l'évaluation va se faire sur ces actions menées et essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, encore une fois, on voit que le clou, c'est au niveau de ces assises-là. Et donc, moi, mon appel à ce niveau-là, c'est vraiment parce que c'est le pays qui passe avant tout. Et nous, on regarde toujours les actions, que ce soit des actions qui nous permettent, nous, Maliens, de nous retrouver. Parce que si on ne le fait pas, regardez tout ce qui est en train de se faire.
D'accord.
Si jamais les autorités sont davantage isolées et qu'au sein de la population, on est encore en différents camps, en deux camps au moins, et que de l'autre côté, nos partenaires qui sont là ne savent même plus à quel sens se vouer et tout ça, nous sommes en train de nous conduire nous-mêmes dans
d'accord, une équipe. D'accord. Monsieur Diabenta, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il est impérieux d'aller à ces assises-là, même s'il faut prolonger la transition?
Bon, je crois qu'il n'est pas impérieux. Il n'y a jamais une assise de trop. Je dirais qu'il n'y a jamais une assise de trop. Pourquoi? Et je reviens un peu au responsable de Yalama, qui est en face de moi, qui a dit que ils ont peur parce que ça dit tout les assises nationales de la refondation là, tout va de là parce que là-bas l'occasion est donnée.
Mais est-ce qu'en tenant les assises on pourra respecter le délai?
Bon, je viens au problème des délais.
Nous, oui, rapidement, puisque nous n'avons que
bon, deux, voilà, nous on n'est pas dans ce calendrier d'abord parce que quand je dis on n'est pas dans ce calendrier. Tout responsable qui a effectivement le souci du devenir de ce pays ne peut pas penser aux élections présentement. Parce qu'en réalité...
Vous aviez exigé la tenue des élections.
J'ai dit, en tenant compte d'abord du fait sécuritaire, il y a combien de réfugiés à Bamako, seulement, à Bamako?
D'accord.
Vous savez, il y a combien de réfugiés à Bamako? Maintenant, il faut sécuriser d'abord le territoire et faire répartir les réfugiés dans leur cité d'origine.
D'accord.
Pour que l'on aille vraiment à un... C'est-à-dire que pour que l'on puisse parler d'élection. Et puis, ils sont en train de parler d'assises nationales.
Alors, puisqu'on n'a plus assez de temps, on va juste donner la parole à M. Koulibaly. Est-ce qu'aujourd'hui, si ces assises se tenaient, le parti Yalama va y participer?
Je vais vous dire, il y a un certain anachronisme au niveau de ces assises-là. Parce que le Premier ministre déjà a présenté un pacte, un programme d'action gouvernementale. Je pense que c'est pour... Avec un chronogramme bien déterminé, il dit qu'à telle date, on va faire telle action. Maintenant, si on fait des assises, c'est pour remettre en cause tout ce que lui a présenté. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'a rien fait de tout ce qu'il a présenté comme pacte. Donc, on se demande pourquoi il est venu alors au niveau du CNT pour présenter ces pactes-là. Est-ce que tout simplement parce qu'il pense... aujourd'hui que ce CNT-là est toujours illégal et illégitime, qu'il vient présenter vraiment un papier et il ne représente pas le contenu.
Okay.
Il ne respecte aucun contenu du pacte qu'il a présenté. Ça, c'est vraiment déplorable. Et moi, j'aimerais...
La réponse à ma question rapidement, avant de fermer...
Si on doit aller à ces assises-là, aujourd'hui, nous, on pense que ce n'est vraiment pas nécessaire et nous, on n'est pas seuls, on est à peu près 107 partis. On dit qu'on n'ira pas à ces assises-là. On a fait une déclaration par rapport à ça et on s'en tient à là parce que ça sera toujours une assise de trop et c'est pour bouffer encore nos sous, nos maigres sous pour les investir dans d'autres choses.
Des assises de trop dont le parti ILMA n'est pas prêt à, auquel le parti ILMA n'est pas prêt à participer. C'est sur cela que se referme ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de l'adresse à la nation du président de la transition Assimi Goïta. Nous analysons ce discours avec nos invités, M. Bagui Diarra du RPDM, Rassemblement pour le développement du Mali, Diabenta Zoumana de MCATT, membre du pôle politique du consensus, et Ousmane Koulibaly, deuxième vice-président du parti Élément. J'ai eu le plaisir de modérer cette émission mise en onde par Mamadou Ouattara. À la régie vidéo, il y avait Peting Diarra. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Gmoni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.